La vie en bleu sur France Bleu Gironde, Isabelle Wagner.
Bonjour.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes psychiatre à Bordeaux et avec vous, on va voir cette question de déménagement. Puisqu'après un déménagement, la famille s'installe donc dans une nouvelle ville, un nouveau quartier et les enfants doivent changer d'école. Donc on va voir ça avec vous. Donc le cas très simple, le changement d'école. Pas forcément de niveau, mais le changement d'école pour les enfants. Comment les préparer et est-ce que finalement c'était une bonne idée de les changer d'école?
La vie, c'est un processus de changement, c'est un mouvement permanent de déménagement, c'est une évolution en fait qui ne se décide pas mais qui fonctionne avec les aléas de la vie et les événements et le temps qui passe. Le déménagement, c'est une belle métaphore du mouvement, c'est ça. Alors les enfants, en général, ils ont des facultés d'adaptation assez exceptionnelles. Et comme toutes les rentrées, quand on parle de ces mobilisations autour de l'événement scolaire, c'est vrai que c'est aussi un événement pour les parents. Donc il y a besoin de s'adapter pour les enfants, et il y a besoin aussi pour les parents de dépasser souvent leurs peurs ou leurs appréhensions du changement. Et quelquefois, c'est plus difficile pour les parents, du moins dans les appréhensions, que pour les enfants. Ceci étant, on arrive le plus souvent à harmoniser, sauf s'il s'agit de déménagement ou de mutation, pour des raisons particulières, lorsque les familles sont éclatées, lorsqu'on est dans des familles en difficulté, etc., on en parlera peut-être aussi.
Alors, on pense à ces collégiens, parce que les petits sont entrés à l'école hier matin. On pense à ces collégiens qui entrent ce matin seulement à l'école. D'autres, ce sera demain matin, puisque ce sont des rentrées différées. Qu'est-ce qu'on peut dire aux enfants quand ils changent d'école avant de les emmener ou est-ce que déjà, ils vont y aller tout seuls
à l'école? Tout dépend des cas, tout dépend des dossiers, tout dépend des situations. En général, les enfants sont assez prévenus du lieu scolaire, du lieu dans lequel ils vont être inscrits, dans la mesure où les parents leur expliquent.
On va voir l'école avant la rentrée?
En principe, oui, où on explique le site. Aujourd'hui, avec Internet, c'est facile de savoir où est-ce qu'on va aller. Les enfants posent des questions, les parents leur répondent dans les bons cas, donc ça fonctionne. Donc après, il y a toujours une phase découverte.
Alors, est-ce que la phase découverte se passe toujours bien quand il y a un déménagement ou est-ce que ça peut arriver que ça fonctionne pas si bien que ça? Et dans ce cas, comment il faut réagir?
Mais dans l'esprit des enfants, si vous voulez, que ce soit les enfants du primaire et les enfants du collège, le collège c'est un lieu très particulier qui est assez passionnant parce que c'est un lieu où on a à la fois des enfants et des adolescents. Le collège c'est le lieu du seuil de puberté, donc on a un peu cette transition qui se joue dans le collège, donc tous ces phénomènes de remaniement psychique, physique, etc. Les enfants, eux, ce qu'ils aiment, c'est quoi? C'est faire des rencontres, c'est créer du groupe social, c'est créer du réseau, créer du lien. Donc, leur principale préoccupation, c'est pas forcément l'école ou ce qu'ils vont y apprendre. A priori, ils savent que c'est un lieu où on apprend, où on se cultive, a priori. Mais ce qu'ils veulent, c'est savoir s'ils vont rencontrer des copains, des copines, s'ils vont se lier d'amitié, s'ils vont rencontrer leur meilleur ami. Et ça, c'est fondamental. Donc ils sont dans l'expérience et dans l'excitation autour de la rencontre.
Ça veut dire que si les enfants ne sont pas a priori angoissés pour changer d'école, ce sont peut-être les parents qui transmettent cette angoisse. C'est peut-être eux qui se disent, tiens, est-ce que ça va bien se passer ou pas?
Alors les parents ont toujours des angoisses, c'est un grand mot, des préoccupations ou des peurs ou des appréhensions. Est-ce qu'ils les transmettent à leurs enfants? Ça dépend des enfants, parce qu'il y a des enfants qui sont assez résistants aux angoisses des parents, c'est-à-dire qui prennent du recul, qui discriminent, qui prennent un peu de distance et qui s'occupent eux, surtout personnellement de leurs projets à eux, de créer du réseau et des liens et des camarades. Et puis les parents observent et suivent et s'adaptent. C'est ça le métier de parent aussi, c'est de s'adapter, d'être à l'écoute et de donner des limites tout le temps.
Bon, ben voilà, donc autre cas de figure aussi dont il y a beaucoup à dire avec vous, Pierre-Philippe Thédot, ces changements d'école après une situation difficile, comme une nouvelle situation familiale, la séparation des parents, et on va voir ça avec vous dans un instant.
Vie en bleu sur France Bleu Gironde.
Une famille séparée, une nouvelle situation familiale, le changement d'école après cette situation qui a changé, qui a été modifiée. Nous voyons ça dans La Vie en Bleu, le mag avec Pierre-Philippe Thédot, psychiatre à Bordeaux. Alors, est-ce que la rentrée est un petit peu plus complexe quand on a des enfants qui changent d'école après une séparation?
Alors, la rentrée est-elle plus complexe? Parfois oui, parfois non, ça dépend comment effectivement ça se passe. Les cas, si vous voulez, où l'enfant arrive en catastrophe dans une école, où il est placé là parce qu'on sort d'une situation critique familiale, ou sordide, ou de violence conjugale, ou de violence intrafamiliale, comme on en parle beaucoup actuellement, où on extrait les enfants, où on les replace ailleurs, ça arrive, mais c'est quand même souvent avec un accompagnement social, et surtout il faut rappeler, parce qu'on ne le dit pas assez, que l'éducation nationale fait un travail énorme d'accompagnement des enfants et de préparation à la mise à l'école, et que lorsque des cas d'enfants difficiles sont signalés ou des cas critiques ou des cas d'urgence, eh bien il y a un travail pédagogique, un travail d'accompagnement et d'accueil qui est fait pour l'enfant et son entourage, souvent la mère. Donc les enfants sont plus ou moins accompagnés, même parfois beaucoup accompagnés sur l'arrivée dans une école. Mais n'oublions pas une chose, c'est que les enfants ont des capacités d'adaptation, je le dis tout le temps, énormes, et souvent ils s'adaptent encore plus vite que les adultes, parce que, encore une fois, ils savent créer des repères qui leur permettent d'inventer des nouveaux mondes et de se situer très vite dans des nouveaux espaces.
C'est-à-dire c'est même presque un exutoire pour eux, si à la maison il y a eu beaucoup de disputes, les parents se sont séparés, ils découvrent une nouvelle école, ils se disent voilà, maintenant je suis dans mon cocon, je n'ai plus affaire à mes parents, je suis dans mon nouveau cocon, je vais me faire de nouveaux copains, dans une nouvelle école. Est-ce que ça peut être vécu comme ça?
Disons que c'est l'école à valeur, peut-être pas thérapeutique, mais à valeur éducative, à valeur de guidance, à valeur rassurante. C'est-à-dire cet espace va lui permettre de créer des liens qui vont certainement l'aider à s'équilibrer pour construire son futur avenir, à condition que les adultes autour aient un peu de cohérence ou que la nouvelle structure familiale soit relativement cohérente pour le mettre en sécurité, c'est vrai. Après, tout dépend de l'âge et de la capacité de l'enfant à comprendre un peu ce qui se passe. C'est pas pareil avec un tout petit, selon la maternelle, c'est pas pareil avec un enfant de primaire, c'est pas... Voilà, avec un adolescent, ça va se passer différemment, etc. L'enfant peut faire le choix aussi de s'opposer au cadre qu'on lui propose, c'est-à-dire de créer de l'opposition et des troubles, des conduites, des comportements pour se manifester à l'école, pour manifester son malaise, n'oublions pas ça.
Il y a des mots à dire à son enfant quand il change d'école, à n'importe quel âge. Est-ce qu'il y a des phrases comme ça, toutes cuites, j'allais dire, qu'il faudrait glisser comme ça à la rentrée à son enfant, tu verras, ça se passe bien, ou tu vas te faire des nouveaux copains. Est-ce que il faut vraiment souligner tout ça,
En fait, ce qui se passe de façon classique, ça nous est tous arrivé, ou ça nous arrive à tous en tant que parents, c'est qu'au moment où on met nos enfants à l'école, on est réveillé sur les moments où nous-mêmes on a été mis à l'école. Où on est réveillé sur les moments difficiles ou faciles qu'on a traversés à l'école. On a des traces comme ça qui se réveillent, on a des refoulés qui réapparaissent, on a des moments personnels, scolaires, et puis on a quelquefois des appréhensions en tant que parents, en disant pourvu que ça se passe pas pour notre enfant comme nous, quand on a eu tel problème, tel moment avec tel enfant ou telle maîtresse, etc. Il y a des retours comme ça qui font que l'anxiété, je parle pas d'angoisse, je parle d'anxiété, un peu banal, réveille un peu les parents sur leur propre vécu. Alors après, ce qui s'échange, ben, c'est intime, et puis vous le savez, c'est extrêmement variable selon les parents et selon leur histoire. Mais les enfants posent des questions, là aussi. Les enfants, en grandissant, et de plus en plus aujourd'hui, avec le numérique et l'éveil à la communication nouvelle, posent des questions pour savoir un peu comment ça se passait pour eux. Là, ce qui change de plus en plus, c'est quoi? C'est que l'enfant est de plus en plus précieux. C'est-à-dire que les parents sont de plus en plus exigeants, implicitement, pour le projet de l'enfant. Ils sont de plus en plus exigeants, ils veulent absolument que leur enfant bénéficie de toutes les conditions, les meilleures, dans tous les milieux, notamment à l'école, pour apprendre et progresser. L'enfant est précieux parce que le monde, il est difficile, comme disent certains enfants, et évidemment...
C'est mignon.
Oui, ils prennent conscience très vite, parce qu'on n'arrête pas de leur dire que le monde, il est difficile,
il est difficile.
Et il va falloir trouver sa place. Et alors, l'enfant est précieux parce que c'est pas possible, dans le fantasme des parents... tellement l'enfant est important, qu'il échoue ou qu'il fasse moins bien qu'eux-mêmes. Donc il y a des projections très importantes qui font que l'enfant arrive chargé. Il arrive chargé parce qu'il est dans un fantasme de réussite qui fait qu'il doit assumer effectivement cette tâche. On sait que l'enfant ne fera jamais ce qu'on a souhaité. Enfin, quand ça se passe bien, l'enfant ne fait jamais ce qu'on a souhaité. L'enfant crée, l'enfant nous surprend. Il trouve des espaces de création à travers le support scolaire et de culture qui lui donnent un projet souvent très différent de ce que les parents avaient imaginé. Mais c'est le métier de parent, c'est la capacité des parents à accepter aussi que l'enfant se subjective, c'est-à-dire crée son identité, son projet personnel.
Les changements d'école se vivent-ils de la même façon quand on a 4 ans, 7 ans ou 15 ans? C'est la prochaine interrogation vue avec vous, Pierre-Philippe Thédot, dans La Vie en Bleu, le mag.
La vie en bleu sur France Bleu Gironde.
Les changements d'école se vivent-ils de la même façon quand on a 4 ans, 7 ans ou 15 ans? Des débuts de réponse avec vous, Pierre-Philippe Thédot, dans cette vie en bleu, le mag. Vous êtes psychiatre à Bordeaux. Alors juste une petite parenthèse avant de parler de ces différents âges. C'est dire peut-être aux parents aussi que quand on arrive dans un quartier, il faut découvrir le quartier ensemble avec l'enfant. On peut peut-être faire le chemin jusqu'à la nouvelle école.
Bon, mais je dis aux parents,
Non, je sais pas.
Découvrez le quartier. Isabelle vous conduira peut-être dans le quartier.
Et c'est une réflexion
jusqu'à l'école.
C'est une réflexion.
Effectivement, il y a des parents qui le font. Il y a peut-être des parents qui le font moins. Effectivement, c'est une bonne idée de découvrir le quartier, de se balader, d'aller voir son école, oui, quand ça n'a pas été fait. Tout à fait. Autrefois, on disait que les adolescents avaient horreur de déménager, de changer d'espace et changer de collège parce qu'ils perdaient leurs amis.
Oui.
Aujourd'hui, ça commence au primaire. C'est-à-dire que les enfants revendiquent de plus en plus, vous savez. Et ils ont tort, ils ont raison, mais en tout cas, il y a dans leur revendication quelque chose qui n'est pas qu'une simple revendication. Je le dis surtout pour les parents qui nous écoutent, parce que je défends beaucoup les parents qui ont un métier difficile. C'est que dans la revendication, il y a aussi toujours une vérification qu'on les aime et qu'on ne les oublie pas, ces enfants. Mais il y a aussi un désir de s'affirmer. Donc c'est un désir positif, ça veut dire que c'est une ouverture au débat, à la discussion. Donc il ne faut pas les punir s'ils revendiquent, il faut les écouter, il faut partager. Mais il faut aussi trancher une décision. Aujourd'hui, dès le primaire, les enfants créent des liens d'amitié très forts, qui sont à la fois scolaires et extrascolaires, dans les activités, etc. Et ils ont horreur du changement, c'est-à-dire qu'ils veulent garder leurs amis, ils veulent garder leurs espaces, ils exigent du lien social pour, s'ils sont obligés de partir, garder des liens avec eux. Mmh. Enfin, ça commence dès l'enfance, les grands-enfants. Donc ça veut dire qu'il y a une revendication forte des enfants pour le lien social. Hein. Et je répète que l'école, c'est un lieu d'apprentissage, c'est un lieu pédagogique fondamental, un lieu culturel, mais c'est un lieu investi par les enfants sur le plan du lien social et du groupe sociétal, c'est-à-dire de pouvoir se confronter à ses pairs, PAIRS, et de pouvoir partager du plaisir ensemble. Donc les parents ont à gérer ces exigences, qui quelquefois sont complètement frustrés par le fait qu'il y a des déménagements obligés, des changements de situation,
ben voilà,
etc.
C'est ça. Si par exemple on a une super bande de copains et qu'on est au CP et que nos parents disent bah voilà, l'année prochaine on change de ville et donc du coup tu vas changer d'école, c'est quand même un changement de vie total pour l'enfant.
Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on prépare, ce qui est souvent le cas, les déménagements, les déplacements, les mutations, bien les enfants suivent, parce que dans la mesure où on est en famille, ils adorent aussi le changement, les voyages, et ils s'adaptent, surtout aujourd'hui où ils peuvent garder des liens à distance avec leurs amis. Et ils s'adaptent tout le temps, sauf quand ils vont très mal, et ils aiment aussi découvrir, ils aiment la nouveauté et recréer de nouveaux liens sociaux, bien évidemment.
Alors si jamais l'enfant revendique, comme vous le disiez à l'instant, et dit non, moi je ne veux absolument pas changer d'école, moi je veux rester là où je suis scolarisée, qu'est-ce qu'il faut dire à son enfant? Il faut l'écouter, le rassurer, peut-être trouver une solution ensemble?
Dans la mesure où on est dans une contrainte de déplacement, il faut se déculpabiliser en tant que parent et affirmer la décision familiale. Après, s'il existe des solutions transitoires de maintien à l'école. Alors, souvent, on voit dans les aventures de... Parce qu'aujourd'hui, dans les carrières des parents, il y a beaucoup de mutations, de déplacements en fonction des évolutions de carrière, etc. Donc, en général, on laisse, si on doit muter, on laisse les enfants finir l'année scolaire sur la même école et on prépare la suivante sur le nouveau lieu. Ensuite, enfin, il y a des aménagements que font les parents, très très bien, qui permettent comme ça, en douceur, d'amener l'enfant à la mutation. Et puis les périodes de vacances sont des moments de retrouvailles en famille pour partager, préparer l'avenir.
Et si le parent se sent débordé, est-ce qu'il faut aller tout de suite consulter ou pas?
Si le parent se sent débordé, il faut qu'il évite de consulter. Il faut se passer au maximum des psys, s'en servir vraiment quand on en a besoin, essayer de se débrouiller sans psy quand on peut.
D'accord.
Mais il faut aussi savoir les appeler si
voilà,
vraiment
faut
nécessaire.
Les appeler.
Alors on peut toujours appeler un psy pour avoir un conseil, pour une réunion en famille, pour une séance, bien sûr, mais on peut aussi faire un conseil de famille, on peut partager, il y a différents moyens de communiquer.
D'accord. Les changements d'établissement scolaire dans La Vie en Bleu, le MAG, quand on passe aussi d'une école élémentaire au collège, du collège au lycée, bref, d'un niveau à l'autre, c'est dans la dernière partie de ce MAG.
Voyez La Vie en Bleu avec France Bleu Gironde.
Info, trafic, immobilité en temps réel dans un instant.
Je reviens pas que tu sois à la fois vice-champion du monde de bridge et supporter de Paris. Où tu me prends à contre-pied?
Le bridge est un sport, le sport de l'esprit.
Ouais, c'est plutôt réservé à une élite, non?
T'es hors jeu sur ce coup-là. Viens dans mon club, tu seras étonné des gens différents que tu vas rencontrer. Le bridge aussi est magique.
Thomas Bessis, 34 ans, est vice-champion du monde de bridge. Et il a raison, le bridge, c'est pour tout le monde. Découvrez la FFB Bridge Box, un coffret d'initiation pour jouer tout de suite, des cours, la licence offerte et plus encore. Plus d'infos sur FFBridge.fr. Le bridge, sport de l'esprit, esprit ouvert.
samedi 7 et dimanche 8 septembre de 10h à 19h, une vingtaine de châteaux de Castillon, Côte de Bordeaux, vous ouvrent leurs portes. Au programme, atelier découverte et dégustation. Dimanche 8 septembre, de 8h30 à 12h30, balade à pied, à cheval ou à vélo. Le midi, marché gourmand avec animation musicale du chanteur Mika V. Balade à poney pour les enfants et démonstration culinaire par Cyril Carini, gagnant du meilleur pâtissier, au château de Pitray. Retrouvez le programme sur castillon-côte-de-bordeaux.com.
France Bleu Gironde.
Info, trafic et mobilité en temps réel sur la 63. Actuellement, le trafic est ralenti depuis les quatre routes de Mios vers Canéjan, direction de Canéjan, donc en direction de Bordeaux, avec une vitesse moyenne de 54 km/h. Sur la rocade bordelaise, c'est assez compliqué aussi. Le trafic est dense depuis Bègles en direction de Villenave-d'Ornon sur cette rocade intérieure avec une vitesse moyenne de 32 km/h. De l'autre côté de la rocade bordelaise, depuis Bruges, le trafic est ralenti en direction d'Ezine, avec une vitesse moyenne de 32 km/h aussi. Je vous souhaite une bonne route, patience avec France Bleu Gironde. Vous êtes nos patrouilleurs aussi, nos patrouilleurs équipe Ouaise, et vous intervenez à tout moment au 05 56 19 10 10.
L'infotrafic en Gironde, ayez le réflexe. 05 56 19 10 10.
Les changements d'établissement scolaire, quand vous passez d'une école élémentaire au collège par exemple, bref, d'un niveau à l'autre, dans la dernière partie du MAC de La Vie en Bleu, juste après The Beatles.
Témoignez dans La Vie en Bleu sur France Bleu Gironde. 05 56 19 10 10.
Dans La Vie en Bleu, le MAC, vous pouvez vous exprimer, effectivement, si vous avez envie de nous raconter comment s'est passée la rentrée de votre enfant. Est-ce que vous avez changé justement de quartier, de ville, avec vos confidences? On peut aussi avoir une explication à ce sujet au 05 56 19 10 10. On en parle en tous les cas avec Pierre-Philippe Thédot, qui est psychiatre à Bordeaux. Donc on va parler de cette transition entre un niveau et l'autre. Par exemple, on peut même penser à ces tout petits qui passent de la crèche à l'école maternelle. Ça aussi, ça fait partie de la nouvelle école, du nouveau lieu. Pierre-Philippe Thédot.
Oui, alors ça, c'est assez passionnant. Pour un pédopsychiatre aussi, ouais. C'est passionnant parce qu'on a des pathologies de la rentrée, nous, quelquefois, en consultation. Mais on a ces petits-enfants, petits garçons, petites filles, qui sont habitués à la socialisation parce qu'ils ont connu la crèche, etc. Et puis qui sont nés à tel mois et qui font qu'ils rentrent à l'école un peu avant 3 ans et qu'ils ont des degrés de maturité variables selon leur nature. Et qui sont dans la nécessité de s'adapter ou pas au milieu scolaire. Alors c'est très compliqué. Et alors les relations que l'on a avec les pédagogues nous permettent de savoir comment ces tout petits font des efforts incroyables par mimétisme pour être un peu comme les plus grands.
Alors justement,
même s'ils sont pas encore totalement propres, s'ils parlent très mal, etc. Alors il y a des efforts comme ça d'adaptation formidables et on les aide. Et puis quelquefois il y a des échecs aussi de l'adaptation. Il faut savoir mettre l'école à temps partiel, etc.
En parlant de mimétisme, je voulais juste faire une petite parenthèse, Pierre-Philippe Thédot. C'est par exemple les enfants qui pleurent à l'école maternelle parce qu'ils ont pas envie d'y rester. Et puis vous avez à côté une petite fille ou un petit garçon qui attend ça depuis 2 mois. C'est d'arriver à l'école. Et là, donc, très joyeusement, l'arrivée se passe bien. Et puis, tout soudain, tous ces enfants qui pleurent font que l'enfant va se mettre à pleurer aussi. Alors là, c'est quand même un peu déroutant pour les parents. Mais ça arrive, hein, ça arrive.
Ben, il faut savoir qu'à 3 ans, si vous voulez, ils ont vécu la crèche, donc ils vivent l'école. Ils entendent le mot école et ils comprennent bien que c'est un nouveau lieu, mais ils savent pas vraiment ce que c'est. On est bien d'accord. C'est un lieu de jeu, c'est un lieu d'animation, c'est un lieu groupal, c'est un lieu d'accompagnement, un lieu d'expression. Donc une classe de maternelle de 3 ans, vous savez, si vous rentrez à cette heure-ci là dans la classe, vous allez voir l'assistante maternelle et la maîtresse en train de tenir plus ou moins les enfants en groupe dans leurs agitations. Enfin, c'est assez agité et compliqué. Mais c'est ça l'émulation et c'est ça l'émergence de la rencontre avec le milieu scolaire. Mais les enfants ont des capacités d'adaptation incroyables. Voilà.
Donc,
et puis surtout
façon...
être vigilant aux enfants qui n'arrivent pas à s'adapter. Parce que le pleur au moment où la mère ou le père pose l'enfant à l'école, le pleur de 2 minutes qui s'arrête quand l'enfant est en classe, et puis le pleur prolongé toute la matinée ou la souffrance douloureuse, l'enfant qui est malheureux, qui se sent abandonné, c'est pas la même chose. Donc ça, il faut discriminer tout ça.
Donc de toute façon, pleure ou pas, ils vont s'habituer. Ils vont s'entendre à un moment donné, trouver du positif et l'intégration va bien se passer. En gros,
la plupart du temps, s'il y a vraiment une pathologie, on va la démasquer très vite. Puisque là aussi, disons que l'éducation nationale fait un énorme travail de prévention aujourd'hui pour dépister les enfants qui ont des troubles des conduites et des comportements. Et les enseignants sont très formés et sont très vigilants au dysfonctionnement des tout-petits.
Alors c'est vrai que c'est une vraie révolution aussi pour les enfants qui passent de l'école maternelle à la primaire, puis de l'école primaire au collège. Un peu moins révolutionnaire le passage du collège au lycée, mais cela dit, il y a quand même un gros changement. Comment préparer et comment vivre ça avec son enfant? Est-ce qu'il faut justement parler au bout de la première journée, voilà, être vraiment très curieux de ce qui s'est passé ou pas?
Dans les codes symboliques que les enfants investissent, ils savent que l'école, c'est dans une progression. Ils apprennent très vite, dès le primaire, qu'ils vont être dans une progression pédagogique et une progression qui est censée suivre leur âge. Alors, il y a des enfants qui sont adaptés dans leur rythme scolaire, d'autres qui sont désadaptés dans leur rythme scolaire en fonction de leur rapport à l'apprentissage, leur rapport au culturel, leur rapport au quotient intellectuel aussi. Hein, il y a des enfants, alors on parle aujourd'hui dans ces nouveaux diagnostics d'enfants précoces, d'enfants de troubles de l'attention, d'enfants de 10, enfin tous ces enfants qui existaient depuis toujours mais qu'on repère mieux aujourd'hui et qui sont pas toujours adaptés au rythme scolaire. Donc, ils ont quelques difficultés d'adaptation et c'est là que les enseignants les repèrent pour essayer de mettre en place des dispositifs d'aide médico-psychologique plus adaptés. L'enfant évolue symboliquement, il a compris que c'est une progression au rythme de sa croissance. Et puis il aime apprendre, donc il se cultive à la fois à l'école et ailleurs, parce qu'il se cultive aussi par lui-même, par le numérique aujourd'hui. Mais il utilise tous les supports pédagogiques qu'on lui propose. Les transitions, elles sont amenées avec les transitions de la croissance. Donc c'est pour ça que ça se passe en général bien.
Donc rien d'inquiétant de prime abord. Si l'enfant n'a pas envie de raconter sa rentrée, est-ce qu'il faut vraiment insister lourdement ou laisser passer les choses?
Alors jamais, on insiste jamais lourdement, c'est-à-dire que l'enfant il parle mais souvent au moment où on l'attend pas, c'est-à-dire qu'il veut pas raconter sa rentrée, on lui demande même pas, on attend le repas du soir ou le moment de famille, de regroupement pour savoir s'il va dire quelque chose et puis quelquefois il en parlera tout de suite, quelquefois il posera des questions, quelquefois il dira son opposition, quelquefois il en parlera plus tard. Ou alors il a besoin, comme nous, de prendre un temps de recul pour réfléchir, pour se poser, pour parler de ce qu'il éprouve ou de ce qu'il a vécu. Il faut respecter les rythmes de l'enfant.
Merci Pierre-Philippe Thédot pour toutes ces explications à propos de la rentrée. En tous les cas, bonne rentrée à vous tous et à vous toutes, les piou-piou. Parce que c'est forcément, ça se passe toujours bien. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire aussi.
Bonne rentrée Isabelle.
Merci.
Au revoir.
Little Worker, je ne sais pas si vous connaissez Little Worker. En tous les cas, nous on avait envie de vous faire connaître cette équipe. Ce sont des jeunes professionnels. Ils rénovent les intérieurs des maisons et appartements dans la métropole bordelaise. Une équipe jeune pluridisciplinaire. Avec elle, on va voir les différentes techniques et les matériaux d'une entreprise de rénovation durable. On va voir ce que c'est demain dans la vie en bleu, le MAC. Bonjour Eugénie.
Bonjour.
Eugénie, vous êtes justement dans cette équipe de Little Worker. Vous serez là demain pour faire des économies sur les factures énergétiques grâce à ces rénovations durables. Qu'est-ce qu'on appelle rénovation durable dans les grandes lignes, Eugénie?
Alors, dans les grandes lignes, ça passe à la fois par les matériaux, à la fois par la gestion des déchets et par l'isolation.
Ouais.
Et tout ça mis bout à bout. Ça permet à la fois d'avoir un impact sur l'environnement qui est moindre et de réduire significativement ses factures également.
D'accord. Bon, on va voir ça dans le détail avec vous, en tous les cas, Eugénie. D'ici là, bonne journée à vous.
Merci beaucoup. Bonne
Demain,
journée.
Dans La Vie en Bleu, le mag à partir de 9h.
Retrouvez La Vie en Bleu sur l'appli France Bleu, disponible sur iOS et Android.